Bienvenue avec Lina Cadeau-Bouzadine, Morgane Gallion, Jérémy Crédville, distributeur de bonbons, Daniel Morin.
Oh, maman, c'est des flûtes.
Tanguy Passion. Et nos invités Gustave Carverne et Benoît Delpine.
Oh non, j'en peux plus.
C'était des flûtes.
Tenez-vous bien.
Oh là là.
Tenez-vous bien. En même temps, le film arrive au cinéma et c'est un régal tellement drôle. Oui, tellement. Oui, alors, oui. Ce sont les élections. Enfin, ce sont des maires, pardon.
Oui.
Donc, on est plutôt dans des élections locales. Voilà,
mais souvent, on entend aller voter.
C'est vrai.
Oui,
voilà.
Souvent,
vrai.
On entend aller voter.
Et puis, ils se font. Copieusement insulter. L'intrigue est extrêmement drôle. Un maire de droite dure, on va dire, et un maire de gauche. Non, j'ai pas dit.
Ouais, c'est ça.
De gauche.
Un écolo.
Sont obligés de d'être.
Ils doivent cheminer ensemble.
Ils sont collés. Voilà, ils se retrouvent collés.
C'est comme si François Fillon était collé à Yannick Jadot.
Voilà. Et la meilleure vanne vient d'être faite par Alicia qui me dit ils cohabitent.
Oh,
c'est
oui.
Tellement beau parce que c'est exactement l'endroit où ils sont collés. Donc c'est à partir de là que le film démarre. Ils sont obligés de vivre ensemble, collés l'un à l'autre. Et c'est extrêmement drôle. Mais j'ai ri. C'est
forcément Jonathan Cohen, Vincent Macaigne.
Oh là là. Oui, oui, mais surtout Carverne de l'épine.
C'est la patte des réalisateurs.
Oui, aussi, folle. Mais on n'avait pas parlé des comédiens.
C'est tellement
on s'en fout. Tellement... Ils sont pas là. Parlons de la
colle. C'est tellement bien écrit. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, le blind test.
Jérémy.
Oui.
Patrick Bruel.
Oui.
C'est bien que je l'ai trop dit.
Pourquoi?
Quand même. Même.
Même. Exactement.
Oh là là.
Je t'aime.
Jamais pour je t'aime, Nagui.
Je t'aime.
C'est Bruel.
Qui chante ça?
Jérémy, c'est Vianney.
T'es bon, hein?
Et Maître Gims.
Et Gims.
Il est bon.
Il y a même.
Donc vous avez compris qu'il y avait même dans le titre ou pas?
Ah, mais même pas.
Ben c'est la même.
Il est redoutable.
Et qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Même si tu revenais.
Oui, mais qui chante?
Jean-François.
Bah alors.
Ah, je savais pas qu'il y avait ça en intro. Je me rappelais plus de l'intro. Ouais, on l'a vu.
Ouais.
Jérémy, Claude-François, bien joué. Il partage.
Non mais écoute. Un truc. Et la voix de Claude-François.
Perdu, très loin de la ville.
Comment il a fait carrière? Mais comment il a fait carrière, le gars? Mais qui chante avec la sinusite.
Essentiellement en reprenant les énormes succès de la Motown et autres Four Tops.
Jérémy. Stromae.
Bah ouais.
Oh, l'humiliation.
Non mais il m'a regardé avec tant de pitié.
C'était du mépris.
C'était à ça d'être méchant.
Oui,
mais
je suis d'accord.
Vraiment, on est
dans la pitié.
Je suis d'accord. Mais je connais. Mais je connais.
De moi. De toi. Mais oui, mais moi je t'aime. Mais bien sûr.
Mais il n'y avait pas de mépris.
Non.
On t'a pas dit de.
C'est pour toi, Jérémy. C'est Magic System.
C'est pour moi le con, le raciste.
C'est la blague la plus raciste de la journée.
Mais non, pas du tout, il n'y a pas de mépris.
Je t'ai dit, c'est pour toi, tu voulais la prendre.
C'est la blague la plus raciste du jour.
Oh mais non, cette émission n'est pas finie.
Il manque qu'on en finisse avec ces élections, parce que franchement...
Ben voyons.
Tout ça...
C'est un peu pour
moi.
C'est
pour moi. Moi, j'ai plus rien.
C'est un duo quasiment.
Qui chante ça?
La mort s'en bat les
couilles. Morgane Damso.
Non, c'est Morgane.
Orelsan.
On avait dit que c'est Magic System avant, je sais plus. Oui, on avait dit.
Ouais, c'est pas pour quelqu'un dit Damso. Moi, c'est moi.
Ouais.
Parce qu'il y a même dans un de ses titres.
Un point pour Daniel, un point pour Morgane, 4 pour Jérémy. C'était Orelsan, ça s'appelle Elle viendra quand même. Et là, c'est le superbe
encore. Oh, c'est passé vite. Morgane, Leïla. C'est Oshi.
Ah ouais, bien joué.
Sans l'accent nul.
Non, j'aime beaucoup le Oshian.
Oshian, c'est Oshian.
Et même violer. Après, je t'aimerai. Bravo.
T'as un poster?
Non, mais c'est la musique dans une pièce.
Victoire de Morgane Cadignan et merci d'accueillir Gustave Carverne et Benoît Delépine.
Bravo,
Marianne.
Bonjour.
Bravo, Ouais, déjà bravo, ambiance. Parce que on a vu et on a aimé en même temps le film qui sort aujourd'hui. La vanne a été faite en régie en disant ils sont obligés ensemble.
Ils cohabitent.
Voilà, ouais, exactement.
Cohabitation politique, ça marche.
Ça marche aussi, mais ça marche mieux avec cohabite que cohabitation. À la veille donc d'un vote pour la construction d'un parc de loisirs super écolo quand même, parce que toute l'eau sera récupérée pour arroser de golf. Toute l'eau de la piscine et des toboggans sera récupérée pour de golf.
Non mais déjà,
super
on va
écolo.
Faire mieux.
C'est déjà ça.
Déjà c'est drôle déjà c'est de beau. Commencer par essayer de déshabiller tous ces projets pseudo écolo qui sont en fait c'est du maquillage mais tellement grossier éthique, voilà.
Glyphosate, sans glyphosate, la totale.
Ouais, vous êtes fait plaisir, vous avez tout chargé là. C'est vrai.
On a tout mis.
Le en même temps vient de l'expression d'Emmanuel Macron, c'est ça?
Ça aurait pu être l'un dans l'autre, mais on a préféré en même temps, en fait. C'est quand même plus classe, malgré tout. Puis il y a un petit rapport avec l'actualité, quand même.
Voilà.
Marc, c'est peut-être lui qui va se faire avoir là, à la fin, hein, parce que dimanche, c'est vrai, ça a l'air un peu serré. On se retrouve troisième.
On le saura dans 4 jours. Un peu serré aussi, c'est un bon titre.
Et là, une intervention.
Est-ce que vous avez tout fait comme la rumeur le prétend pour que ça sorte vraiment 4 jours avant les élections?
Vraiment. Là, pour le coup, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est même on casse un peu le métier. Il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on a tourné en décembre, monté en janvier, on a fait le son en février, et là, on sort là fin mars début.
Comme quoi, c'est possible en fait d'exploiter les gens.
Les gens vous font croire que
c'est un métier. On peut exploiter les gens, on peut moins les payer.
On peut surtout être très peu nombreux. On est et être en circuit très court.
Juste avant les érections, c'est vachement bien.
Écoutez, il fallait la faire.
Merci. Voilà.
C'est bon, j'ai fini.
On a un bonbon, moi. Pour en revenir à l'idée du film, il y a énormément de vannes, mais qui viennent servir l'histoire. C'est pas de la vanne pour la vanne, c'est que vraiment on est dans le milieu politique avec des vannes autour de toute l'actualité politique, des phrases ou des idées même, et de tous bords, tout le monde en prend pour son grade. Et puis il y a quand même l'élément déclencheur, c'est-à-dire un mouvement féministe qui dans un bar
de qualité, un bar à pute,
monsieur.
En 2022,
bar à hôtesse, excusez-moi.
Bar à champagne.
Le FMI.
D'accord. C'est un bar à hôtesse, mais je crois qu'il y a quand même des putes hein, dans le. J'adore choquer.
C'était tellement bien parti.
C'est ça.
Bref, ce bar s'appelle le FMI.
Dans un bar à hôtesse qui s'appelle le FMI, acronyme pour.
C'est pour DSK.
D'accord.
Pareil.
Très bien. En tout cas, il y a une jeune fille qui fait sa première soirée et qui prend quoi?
Oui, c'est ça. Elle travaille pour la première fois.
C'est interprété par India Air. Elle prend un énorme tube de. Une espèce de seringue à pistolet, merci.
On
semble travailler avec Valérie D'Amido, toi.
Moi et Valérie, on est comme ça.
Toi et Valérie D'Amido, ouais, c'est ça.
Collé.
Pistolet à silicone, quoi, mais colle.
Et là, dans une pièce, enfin, elle se débrouille pour les coller. Ouais, et pour coller vraiment la partie intime de Jonathan Cohen aux fesses de Vincent Macaigne. À partir de là, tout le film.
Voilà, après, il faut qu'ils trouvent une solution. Donc, ils vont passer la nuit entière à essayer de se décoller en allant voir des gens de droite et de gauche, chacun selon leur milieu, leurs connaissances et leurs options philosophiques et politiques.
Des sophrologues.
Oui, voilà, sophrologues pour l'un, vétérinaires pour l'autre, etc. Selon que les gens votent à droite ou à gauche.
Non, et puis il y a des vannes partout. C'est-à-dire que d'abord c'est extrêmement bien réalisé et bien écrit. Je le redis et j'insiste.
Et bien monté.
Parce que.
Quoi? Non, parce qu'il était monté vite.
Ah, très bien. Non, c'est vrai,
le montage s'est fait rapidement.
Et puis il y a par exemple des vannes qui sont faites un peu. Ça me fait penser à la coccinelle de Gottlieb. C'est-à-dire que dans le cadre, il se passe un truc, mais pas forcément au premier plan ou pas forcément dont on parle, qui est une vanne. Je pense aux affiches électorales qui sont collées, qui sont la traduction même de Make America. Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est
faire la France grande à nouveau. Enfin, c'est vraiment traduction Google, quoi. C'est même pas fait chier à trouver un autre slogan.
Tellement drôle.
Il y en a un dernièrement qui a carrément repris nos vies sont plus importantes que leur profit. Non, mais il a carrément
une. Ouais, la force tranquille aussi. Même,
Ah oui, il a l'air bien aussi dans le jeu. Ouais.
Et puis, il y a.
Il y a les prix de l'essence aussi.
Exactement. En arrière-plan, il y a l'espèce de totem où il y a tous les tarifs de toutes les essences qui défilent une vitesse infernale.
Donc du coup,
avant la guerre,
avant que les prix explosent, ouais. On a quand même.
Donc ça cause de vous voulez dire.
Bah peut-être.
En tout cas, que l'on soit de droite ou de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du milieu, du centre, écolo ou pas, tout le monde peut se marrer en regardant ce film.
On m'a même montré à Angoulême lors d'une avant-première, il y avait des gens que je connais, des maires que je connais de droite, de gauche et écolo.
Des amis nazis.
Non,
en Charente, il n'y a pas de.
Non,
pas de
ça. Dans le Poitou, il n'y a pas de terre.
Un peu plus paisible. Voilà. Hein. C'est la Charentaise tout de même. Enfin, bon, ouais. Mais en tout cas, ils m'ont tous les trois proposé qu'on passe ce film dans le Congrès des maires en vrai, quoi.
Donc, génial.
C'est quand même pas mal.
Ça serait le climax de la carrière.
On l'a montré aussi à Sandrine Rousseau, qui est l'écolo féministe. Ouais, alors, on ne savait même pas que ça existait avant, mais. On a découvert ce mouvement qui colle vraiment bien au film.
L'écoleuse.
Non, mais elle a adoré le film. Franchement, et puis c'est une fille, une femme vraiment top.
Le sens de l'humour et tout est très drôle.
Parfait. C'est drôle, c'est intelligent, c'est signé Gustave Carverne, Benoît Delépine. C'est votre dixième film le plus abouti, le plus réussi. Vous devriez tous les faire en deux semaines. Franchement, ça vous réussit de bosser comme ça, comme des acharnés. En même temps, sort en salle aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde ici. Voici Morgane Cadignan. Morgane ne vous aime pas, Gus.
Mais ça va pas, bien sûr que je les aime. Kéverne et Delépine, c'est comme si Philippe Catherine avait fait un enfant avec Michel Houellebecq sans complètement arrêter de boire pendant la grossesse. C'est barré, mais c'est tellement bien. Puis honnêtement, je crois que c'est le rêve de beaucoup de gens d'être collé deux jours à Jonathan Cohen. Là, dans le film, ce sont deux élus. Et je me dis, ou alors on colle les élus, tu vois. Je me dis, franchement, là, réfléchissez. Si on collait Éric Zemmour à Marine Le Pen, voilà, ensemble, bien collés comme ça là. Puis après on les leste avec des genres de boulets aux chevilles. Puis après on va au bord d'un canal. Et ouais non, c'est interdit par la loi. Bon, d'accord. Non mais après c'est très bien de coller les élus entre eux. Réfléchissons, si on colle Jadot, Hidalgo, Poutou, Artaud, on arrive à 4%. Et parfois la gauche au second tour, ça demande juste un peu de colle de bonne qualité. Et puis après nous les électeurs, faut qu'on sniffe la colle dans un second temps pour aller voter Roussel en se disant et après tout un apéro sel. C'est bien un jeu de mots qui vaut une voix. Non mais
si ça fait parler comme ça, je refuse.
Non mais sans déconner, je prends un peu l'occasion que votre film parle d'élus pour reparler un peu de cette campagne à J-4, c'est quand même waouh. En ce moment, on en parle beaucoup dans les apéros entre copains et on se demande pour qui on va voter et j'ai jamais de ma vie entendu à ce point la même réponse à savoir putain, je sais pas. On demande que ça nous de s'engueuler pour nos idéaux politiques hein, on demande que ça de gueuler autour de la table, mais alors là on est tous dépités, la bouteille de vin elle est pas renversée, les cendriers ils sont pas pleins, personne ne gueule, on est tous d'accord pour se dire que ça a chié. C'est comme quand tu sors du cinéma après un film de voilà, après chacun remplit avec le nom du réalisateur de son choix. Rendez-vous sur franceinter.fr pour connaître le nom des gens que Nagui déteste. Assurez-vous d'être accordé à la fibre parce qu'il y en a un petit paquet. Mais pour les élections, putain, je sais pas. J'ai la même sensation que quand je dois commander au resto alors que j'ai très faim. Donc je vais faire la même technique en allant voter. Quand je suis au resto et que j'ai la dalle et que je sais pas, je me piège. J'attends que le serveur arrive et dans la précipitation au dernier moment, je dis un truc au hasard. Bah là, pareil dans l'urne. Oh là, ben je sais rien. Croque-monsieur, omelette. Bah, Yannick Jadot, voilà, j'en sais rien, au hasard. Si j'aime pas Jérémy, tu me donneras un petit bout de ta pécresse. Bah oui, mais je sais que c'est pas bon, mais j'ai la dalle. En plus, les candidats de la vie réelle, ils sont à peine plus crédibles que les personnages de votre film. Donc moi, quitte à me servir une bonne dose d'absurde, je préfère quand c'est au cinéma chez vous que dans ma télé pendant un débat présidentiel. En ce moment, le nombre de titres de JT qui me laissent croire dans un premier temps que c'est une chronique de Daniel Morin, c'est pas normal. Je crois que tu devrais mettre Jean-Luc Mélenchon en héros du jour et on met un bout des mentales à la tête du pays, ça serait moins ridicule. Quoi. Et en tout cas, à choisir dans ce studio, je crois que je me colle à Jérémy pendant quelques jours parce qu'il sent bon, ou alors à Leïla. Mais j'aurais le vertige, t'es trop grande. Non mais je vais coller Nagui derrière moi. Franchement, c'est le plus léger d'entre nous. Et Balenciaga, ils vendent des sacs à dos à peine moins moches qui valent le même prix. Donc en tout cas, les amis, décollons-nous dimanche pour aller voter. Après, pour qui? Là, j'avoue, vous me posez une colle.
Chacun fait ce qu'il veut.
Pour me poser une colle.
Le sac à dos te remercie.
J'en prie.
C'est vrai, elle a raison. Et Morgane, je ne sais même pas pour qui voter encore.
Non, mais il y a des personnalités, beaucoup là, du monde de la culture, qui sont positionnées, qui sont engagées à défendre, alors beaucoup en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
Ah non, on aurait voté pour Sandrine Rousseau, mais malheureusement, elle n'a pas été en tête.
Je pense que ce film n'est pas spécialement un film militant, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du film en disant « ils ont raison, je vais voter pour un tel ou un tel ou un tel ». C'est un film qui montre les failles un tout petit peu de la politique sans être dans la parodie extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses totalement impossibles dans ce que disent les politiques et dans la manière dont chacun essaie de convaincre les autres.
Bah, oui, mais c'est ça qui est quand même un petit peu fou avec l'époque, c'est que c'est absolument absurde et moi il y a quand même 2-3 fois devant que je me suis dit « ah, c'est exagéré, mais pas tant que ça ».
Mais pas tant que ça, oui, c'est
au
ça.
Au début du film, il y a un débat entre les deux avant qu'ils soient collés, mais, c'est carrément, ça dure peut-être 4 minutes, il faut voir quand même la force de ces deux acteurs, parce que c'est incroyable, nous on privilégie le plan séquence, donc il n'y a rien pour ce... Il n'y a pas une deuxième caméra ou ensuite
pour
un plan général.
Pour sauver ou couper.
One shot. Et enfin, franchement, on aimerait qu'il y ait un débat de cette qualité à la télé, là, en ce moment. D'ailleurs, entre l'écologie et l'emploi, enfin, il y a des vrais, il y a des vraies confrontations, même si elles sont assez rigolotes et risibles, enfin, si on va un peu loin dans les caricatures. Mais en tout cas, ce sont des vrais débats. J'ai pas l'impression qu'on ait eu ce type de vrais débats.
Alors, le seul qui est peut-être à peine exagéré, c'est quand ils vont se retrouver sur à faire du rodéo pour espace, parce qu'ils essayent de se décoller en fait. Donc ils essayent toutes les solutions. Ça passe par un jacuzzi, ça passe par une opération avec Thomas VDB aussi qui est vétérinaire
et qui les fait marcher au pas.
Et c'est dans la bande annonce qu'il leur explique que maintenant ce sont des quadripèdes, donc il va falloir qu'ils fonctionnent comme des chevaux. Mais c'est tellement drôle, Et puis Damien qui répète 25 fois les mêmes mots. Et c'est tellement drôle. C'est tellement
et en même temps, je trouve que quand même, il y a une.
Petite... Ah, et en même temps,
il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on ne peut pas raconter ce qui va se passer avec ces deux candidats. Mais il y a une troisième voie, il y a un terrain d'entente possible, envisageable.
Ça, c'est la fiction.
Non, je crois pas. Pas tant complètement.
Que ça, parce que, bizarrement, je pense que, effectivement, deux personnes qui sont obligées d'être ensemble, mais à ce point-là, on est obligé de trouver des terrains d'entente. C'est-à-dire, même dans un couple, on n'est pas comme ça tout le temps, quoi. Ça crée des liens, si on peut dire, voilà. Mais ils sont obligés de se confronter, et peut-être même, effectivement, ils en deviennent attachants. Si
c'est ça, il y a une forme de fable politique, moi, je trouve quand même intéressante derrière la caricature, derrière cet humour-là qu'on vous connaît. Et puis, il y a aussi une idée, je trouve, assez intéressante. C'est que on a des personnages. Alors le personnage de Vincent McCain est un écolo convaincu, mais le personnage de Jonathan Cohen est hyper intéressant parce que on comprend que il pourrait être de n'importe quel bord politique. Le mec est pragmatique,
c'est
et opportuniste.
C'est l'intérêt d'abord.
Voilà. Il a flirté, un peu avec l'extrême droite. Il dit ça comme s'il était, il avait marché dans une flaque d'eau, quoi. Il a pas fait exprès. Et puis finalement, il est revenu là. Il est génial, ce personnage. Il a une vérité et immense en réalité. D'un point de vue politique.
Puis en fait, il change, il rythme vraiment à la fin. C'est aussi parce qu'il se fait larguer par sa femme, un amour d'Alice, qui est extraordinaire quand elle le largue comme ça.
On a voulu se forcer un peu à l'optimisme quand même sur la fin pour pas avoir un film trop noir. Ouais. Le précédent, Efface historique, ont terminé par une vision de la Terre comme la Lune, c'est-à-dire un astre mort. Là, on a voulu quand même se donner un peu d'oxygène, un peu d'air.
D'ailleurs, dans une interview, Vincent McCain dit qu'il s'est inspiré du jeu de Denis Podalydès dans Efface historique pour créer son personnage d'homme politique.
Ouais, j'ai entendu ça hier, c'est étonnant. Hein. Ça, ils ne nous l'avaient pas dit par
contre. Non, ils ne nous disent rien.
Il faudrait les payer d'abord, après peut-être qu'ils vous diraient.
La veille, il avait dit qu'il s'était inspiré de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, c'est vrai. Ou Pompidou aussi. Ça, c'est Jonathan Cohen, je crois.
Oui, c'est ça, c'est Jonathan Cohen.
Mais en fait, au-delà du côté gauche-droite, il y a surtout un ultra-libéral capitaliste prêt à tout, en se disant il faut que ce soit l'argent, la consommation qui fasse tourner la boutique. Et l'autre qui est plutôt dans des valeurs humaines d'écologie, de respect, qui se fait insulter dans sa propre mairie.
Mais c'est quelqu'un pour beaucoup de mains.
Il était mieux celui d'avant.
Il mettait des notes de frais.
C'est tellement drôle.
Mais le personnage de Jonathan Cohen, c'est pas juste un capitaliste. Je crois qu'il veut juste être élu en fait. Je crois qu'il s'en fout du reste.
Non, il veut quand même. Ouais, c'est l'opportunisme.
C'est l'opportunisme quand même.
Il s'en fout d'abattre des forêts pour faire un parc d'attractions. cherche un alibi écolo pour gagner de l'argent. Enfin, c'est du greenwashing en permanence. C'était, et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un film manichéen sur la politique avec tel parti est formidable, tel homme politique est formidable, tel discours est formidable. Non, on est avec des valeurs humaines que sont le féminisme, que sont
l'écologie,
la consommation, l'ultra-consommation, l'écologie, l'ultra-consommation à combattre, l'écologie, la planète, tout ça, c'est, et puis surtout le fait que on est là, on doit vivre ensemble. Il y a un moment où ils sont obligés de faire avec.
Bah voilà.
C'est pas forcément.
Vous avez repéré un moment du dialogue, il parle du rapport du GIEC, mais, mais c'est dingue. Le film sort, il y a un rapport du GIEC qui sort en même temps. Enfin, c'est complètement fou.
Non, c'est drôle, c'est intelligent. C'est vrai que vous aviez pensé à faire une série avant de faire un film, Gus?
Ouais, écoute, non, on était un peu à la croisée des chemins.
Oui ou non,
Oui.
On en fait déjà une, hein, qui s'appelle Plus belle l'eau de vie, dans Groland.
Une quotidienne, Benoît, une quotidienne.
Ouais, c'est vrai. Non, mais on était un peu à la croisée des chemins en termes de création, et on était même au bout du rouleau, et puis... Donc on avait, comme tout le monde, on avait pensé à une série pour Netflix, hein, mais c'était trop de travail.
Sur le confinement, c'est genre 40 séries sur le confinement qui sortent en même temps.
Non, mais c'était trop de travail, donc on s'est dit bon, on avait cette vieille idée de deux mecs collés.
On est pour la décroissance du travail. Hein,
enfin, voilà, et puis donc on est parti là-dessus.
En tout cas, c'est malin le choix. Le casting est fort aussi. On a l'impression que d'ailleurs, c'est chic pour les acteurs d'être dans l'un de vos films. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, même si c'est pour faire une scène très très brève ou une journée de tournage.
C'est un peu comme Woody Allen.
Il faut en être.
C'est un peu comme les films de
Woody Allen. Vous avez sentiment. Même ils s'en souviennent. Enfin, je sais pas si je peux.
Non, mais est-ce que vous avez suivi des refus?
Par exemple, François Damiens, s'il est venu que pour un tournage dans son diner, un peu en début de soirée, donc on va passer 4 heures.
C'est l'américain.
C'est extraordinaire, c'est génial. On peut revoir la scène en boucle. Nous, sur le tournage, on avait vraiment du mal à pas exploser de rire. Même Jonathan et Vincent, qui sont des très bons acteurs et qui doivent garder leur sérieux pendant. Ils avaient du mal à pas pouffer pendant son monologue.
C'est rare qu'on fasse 20 prises. Là, ça a été le cas. Normalement, on essaie d'en faire 2 ou 3.
Ouais, là, c'était énorme. Et sauf qu'il a passé que 4 heures avec nous, mais ensuite, il a passé 12 heures au poste. Hein. Mais bon.
Entre cellules de dégrisement à l'aéroport.
Mais non.
Il était à Toulouse et dans toute la presse people, il croyait qu'il était à Mulhouse.
Mais sans déconner. C'est là où on voit que la réalité va bien plus loin que le film.
Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que les gens aiment bien venir, mais moi, je dis toujours qu'on fait pas du cinéma, on fait table d'hôtes, mais là, ça a dépassé les bornes.
Non, mais à part ça, carrément, cette nuit folle aussi, cet After Hours avec lui après, ça nous a donné carrément envie d'écrire un film pour lui, quoi, parce qu'il est extraordinaire, franchement, bravo.
Et il est, la part d'improvisation là-dedans, elle est à quel degré? Parce qu'on a le sentiment que c'est extrêmement bien écrit, parce que ça ne peut pas être que de l'improvisation, tellement les choses se répondent entre elles, et encore une fois, tellement il y a des petits détails comme ça, c'est pas le jeu des 7 erreurs, mais pas loin, en tout cas, regardez bien tous les cadres, tout ce qui se passe dans l'image, parce que c'est extrêmement vivant, il se passe toujours un truc. Donc on a ce sentiment de que tout soit écrit, storyboardé, et on a quand même le sentiment que vous avez fait appel avec Vincent McCain, Jonathan Cohen, et puis entre autres Anna Mouglialis ou François Damiens, à des personnes capables d'improviser et de rajouter quelque chose de très personnel.
Non, il n'y a pas très, très peu d'improvisation, parce qu'on n'avait pas déjà beaucoup de jours de tournage, donc il fallait aller à l'essentiel. Puis on avait vraiment écrit beaucoup de dialogues, on était inspiré par les personnages. Donc même
la scène yoga, par exemple, de Laetitia Deutsch, c'est pas improvisé, ça, parce que...
Non,
il n'y a rien d'improvisé à l'écriture. Par contre,
l'accouchement,
entrer en contact avec votre bébé.
Voilà, c'est par contre ce qui donne peut-être cette.
Elle est en train d'essayer de les décoller et elle pense qu'avec des huiles essentielles c'est possible.
C'est ça.
Et en faisant des invocations comme ça à l'univers, et finalement elle est en train de faire une sorte de séance d'autonomie,
trop,
je sais pas quoi, voilà, avec les bébés là.
Et puis physiquement, on va rappeler quand même qu'il y en a d'abord un, puis l'autre qui est collé derrière, et elle se colle au derrière. On a l'impression que c'est la reconstitution de Madness, quoi. C'est qui est en train de se reformer. et tout ça dans un côté yogi concentré.
Cette impression de liberté, quoi, d'improvisation, c'est parce que effectivement tout est écrit, les dialogues sont écrits, etc. Mais quand on arrive le matin du tournage, nous, on n'a pas fait ni répétition, ni storyboard, ni lecture.
Il faut y aller.
On arrive. Ouais. C'est à nous, Gustave et moi, et Hugues Poulain, le chef-op, on cherche une belle idée de cadre ou qui puisse fonctionner avec ça.
Alors ça aussi, je tiens à le souligner, c'est que tout ça n'est pas fait au mépris de la qualité du film et du cinéma.
C'est assez pensé, mais en tout cas, c'est le jour même. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette impression de...
Je vais juste embrasser Anne Benoît d'amour, tellement elle est formidable, cette actrice. Elle joue la maman.
Laetitia Doche aussi. Alors il y a un cadre, à un moment, on a une sorte de poteau au milieu du cadre.
C'est drôle. Ouais. Ça, c'est drôle. Attends, il faut juste expliquer. On a l'impression, c'est-à-dire que la caméra est posée, il y a un poteau, et derrière le poteau se trouve Jonathan Cohen,
qui est en train de manger,
et qui parle, et c'est super long, et on se dit, ils n'ont pas mis la caméra au bon endroit.
Mais non, mais ça, c'était extraordinaire, parce que c'était le premier jour de tournage, et Jonathan ne connaissait pas plus que ça, quoi.
On l'a vécu une fois, tu vois, pour les essais.
Donc, on rencontre Jonathan Cohen, donc première scène, on lui fait tourner avec une caméra derrière un poteau, et donc lui, il avait quand même bien bossé son texte, il s'attendait à ce qu'il y ait un deuxième axe, etc. Non, c'est bon, mais attendez, vous rigolez, j'ai bien vu que la caméra était derrière le poteau. Non, t'inquiète pas.
Vas-y, tu seras caché tout le film, t'es derrière Vincent Lacquen, t'es derrière le poteau, on va s'arranger pour qu'on ne voit jamais.
Mais il en parle à tout le monde.
Mais c'était un visitage, c'était une...
Oh, un petit peu, mais gentil. Hein.
Pour la première journée.
Mais non, mais en plus, ça nous... C'est drôle. Ça nous faisait rire de le faire comme ça, et on s'est aperçu en regardant dans le combo qu'en fait c'était vachement intéressant.
C'est super parce drôle.
On le voit quand même passer à droite à gauche sa petite tête, et surtout son plat avec son plat plein de gras.
C'est-à-dire qu'il mange des abats avant d'aller dîner avec le candidat écolo en disant non, moi c'est que des légumes, et puis d'ailleurs il va devenir pois chicheur, c'est-à-dire que le mec
pois chicheur.
Ah oui, c'est vrai que c'est notre famille. Il réduit tellement son choix alimentaire qu'à la fin il n'y a plus que le pois chiche, parce qu'il ne veut pas faire souffrir les carottes non plus.
En revanche, il s'en fout de voir un restaurateur qui souffre pour de bon, et seule la cause animale l'intéresse.
Et Gustave, il est trop bien.
Ouais, super. Ouais,
on a fait deux petites apparitions, ce qui est rare dans le film dernièrement, mais alors Benoît,
en restaurateur dépressif, chasseur d'images. C'est important quand même. Au téléobjectif, en train d'essayer de faire des photos.
L'absurde est tellement maîtrisé dans le film, c'est génial. Mais franchement, c'est formidable.
Je vais vous dire sincèrement, autant j'ai pas aimé les neuf précédents, autant celui-là, c'est un très...
On y croyait pas. Hein. On s'est dit, c'est la dernière fois.
Un peu de sincérité, ça fait du bien.
C'est vrai. Ça s'appelle En même temps, c'est aujourd'hui au cinéma. Il faut absolument que vous voyez ce film. Ouais. C'est très, 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 très drôle. Et c'est tout public. Encore une fois, même si on a décrit et qu'on a raconté... Non, c'est tout public.
Mais si, même les animaux.
Mais si, les enfants.
Les enfants.
Mais oui. Il y a rien de choquant.
Le FMI et India Air dans le noir.
Non, il y a rien.
La cravate de sénateur, non ?
Par contre, ça m'a donné des idées.
C'est la cravate à papa.
C'est ça, exactement. Non, il faut y aller, il n'y a pas de problème.
Benoît Delépine, les parlementaires.
Gustave Carlen sont nos invités jusqu'à 12h30. En même temps, c'est aujourd'hui au cinéma. Et Jérémy Crédville, c'est tout de suite sur Inter.
Ambiance. Ouais, vous avez vu le temps qu'il fait dehors là depuis une semaine ou deux?
Il fait pas beau.
C'est super pour un mois de novembre. Allez, petite reprise de Vianney.
Oh non.
Météo, pas là.
Je fais de la lune.
Oh, wow.
Sur une butte. Dans 3 mois, c'est l'été. Pourtant, il vient de neiger. On porte des pulls. On coule du nez. Une spatule pour raclette ou vitre givrée. Il fait moins un. Lèvres qui gercent en même temps qu'un rhume des foins. Caisse qui claque, c'est mes fesses. Frigorifié le matin. L'après-midi, je sue. On ne sait plus s'habiller. Le fil d'avril est tordu. Pas là, mais t'es pas là, météo. Pas là, mais t'es pas là, météo. Pas là, mais t'es pas là, météo. Météo, pas là, mais t'es pas là, météo. Pas là, mais t'es pas là, météo. Météo, il ne fait que pleuvoir. de l'eau qui tombe, bah y a que ça. Si j'avais des nageoires, ça serait plus sympa. Printemps pourri, normalement, y a trop de pollen en damar gris. Moi j'en ai marre de la laine, pas là. Mais t'es pas là, météo, pas là. Mais t'es pas là, météo, pas là. Mais t'es pas là, météo. Météo, pas là. Mais t'es pas là, météo, pas là. Mais t'es pas là, météo. Météo. Le marchand de glace déprime un peu. Tout ça la gasse. Mouiller les cheveux. Quand les bourgeons vont éclore, on sera mort. Je veux plus manger de mon dor.
Voilà, je prendrai des cours de chant
le 15 novembre à Narbonne, le 16 à Maroussan et le 3 et 4 mai à l'Européen. Attends, je suis pas fini.
Ah bon, d'accord.
Fini dernier coup.
C'était un break promo.
Je mets ma capuche.
Il est malin.
Pas ma casquette. Verglas tribut. En québécois, il fait frette. Pas là. Mais t'es pas là, météo. Pas là. Mais t'es pas là, météo. Pas là. Mais t'es pas là, météo. Météo, pas là. Mais t'es pas là,
ça fait des droits d'auteur.
Pas là. Mais t'es pas là, météo. Météo.
Alors, vous avez dû lire quelque part qu'il reste 3 ans à l'humanité pour réduire ses émissions de CO2. Après quoi, il sera trop tard. En fait, c'est pas vrai. C'est faux. Il reste 3 ans aux multinationales pour réduire leurs émissions de CO2. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 20 entreprises qui émettent un tiers des émissions de CO2. Voilà, donc à méditer et bonne émission.
Merci, Jérémy.
Et il l'a dit le 15 avril à Narbonne, le 16 avril à Marcoussan, bah, et le 3 et 4 mai à l'Européen. Et bah, puisque Morgane, j'ai oublié, c'est le 6 avril à Genève,
merci,
madame.
Merci, le 8. Le 6, c'est aujourd'hui.
Elle est ce soir à Genève aussi.
Non, 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 le 8 à Genève.
C'est un 8.
Oui,
pour une c'est fois. Un 8.
Vincent.
C'est un 8.
Vincent, c'est bingo, tu sais.
Vincent McKen, Jonathan Cohen, India Air, Jenny Beth, Douli, Yolande Moreau, Isabelle Gaspard, Charlotte Crex, Michel Bessé, Frédéric Felder, Thomas VDB, François Damiens, Anna Mouglialis, Laetitia Deutsch, Anne Benoît et Jo Dahan, en rajoutant évidemment Gus Carverne et Benoît Delépine en caméo, on va dire. Dans ce film. Et puis, ce plaisir de l'écriture. Est-ce que l'écriture telle que vous l'aviez conçue a évolué pendant le tournage, voire au montage? Il y a des scènes que vous avez retirées, vous avez rapproché des scènes pour avoir un effet différent.
Ça arrive, on a retiré qu'une grosse scène, on s'améliore au fil des tournages, hein, comme vous l'avez remarqué. Mais non, c'est vrai que là, on était vraiment, on n'avait pas beaucoup de temps de tournage, on a écrit beaucoup plus vite, et du coup, moins de séquences que d'habitude, donc on en a retiré moins à la fin, il y en a qu'une grosse qui a sauté.
Et puis, une expérimentation qu'on a essayé de faire, enfin. C'est un moment dans le film, il y a l'employé du golf qui ouvre la porte et qui tombe sur eux, ouais, en train de faire du practice, on va dire, ouais, intérieur. Mais du coup, je sais pas ce qu'il nous a pris, on s'est dit, ça serait vraiment drôle qu'on ait d'abord le gardien du golf, qu'on le voit vivre avant, avec sa femme,
tout ça. Une histoire parallèle, quoi, complètement quoi. Con.
Et puis qu'à la fin, on continue à le voir, puis à la fin du film, ça se finit sur lui. Enfin, on a vraiment essayé au montage, on s'est rendu compte que tout le monde était perdu, même nous.
Donc vous lui avez envoyé un texto pour lui expliquer que le rôle serait un peu plus court que ce qu'il a tourné.
Bah, c'est un copain, là, dans ces cas-là. Ouais, c'est vraiment des copains.
Il faut que ce soit un copain, c'est ça.
Jo Dahan et Miss Ming, qui, elle, du coup, a été complètement
zappée du montage.
Elle comprend.
C'est la dure loi du cinéma. Daniel?
Oui, tu le disais tout à l'heure, Nagui, tous les petits détails, toutes les petites références, tous les petits clins d'œil. Et même, il y a un petit clin d'œil à Groland avec Jonathan Cohen qui vous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce genre? Une petite référence directement.
Un sketch de Michel Sardouille.
Exactement.
Il chantait, qu'est-ce qu'ils qu'ils ont contre le jambon. Donc, voilà. On s'auto-cite. Hein, nous,
Ah, mais c'était drôle parce qu'il ouais. était hyper fan de ce sketch, donc on a passé la journée là-dessus. Hein.
J'ai le sentiment que vous aussi, vous êtes fan de Jonathan Cohen et Vincent Macken, c'est-à-dire que vous avez besoin, enfin, les gens que vous prenez, c'est pas de l'opportunisme de casting en disant on va prendre les gens bankable du moment.
Je peux la re-raconter parce que c'est quand même sympa. Bah, c'est-à-dire que dans les avant-derniers César, on va dire que c'est les César Corinne Maziro, vous voyez, de lesquels je parle.
C'est bien, c'est un beau repère.
Espèce de repère historique. Il y a la baffe des Oscars et bon, il y a Corinne. Voilà. Donc, lors de ces Césars, c'était sous Covid, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'ouvert dans Paris, etc. Et du coup, enfin, il y avait la peur partout. Et nous, d'habitude, on ne va pas à ce genre d'événements, mais là, on était simplement nommés pour le scénario de d'effacer l'historique. On s'est retrouvé là-bas et c'était assez sympa parce qu'il y avait des petites tables, on avait droit à une demi-bouteille de champagne.
C'est bien
en personne, mais comme il n'y en avait pas beaucoup qui n'osaient pas boire, donc on leur a piqué toutes leurs demi-bouteilles.
Pour pas gâcher, c'est pour pas gâcher.
On était très en forme, quoi. Et puis, bon, on n'a pas eu le César. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au César, quand on a un César, il y a un taxi qui vient vous chercher, vous ramène chez vous, mais quand vous n'avez pas de César, vous vous retrouvez comme un con dehors,
sous la pluie,
sous la flotte, avec pas un bar ouvert à 300 mètres.
C'est fou.
Donc du coup, on s'est retrouvé avec plein de gens intéressants, mais, et donc on a fait notre marché, c'est-à-dire que...
Il y avait Jonathan Cohen, Vincent Macken, Yolande, tous les losers
de César. Ce soir-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin ni de voir les agents, ni rien, on a discuté avec eux, on a rigolé, on a tapé dans la main, et hop, c'était parti.
En tout cas, c'est réussi parce que on a l'impression que tout comme ça est fait à la légère, là-bas comme je te pousse, avec qu'est-ce que tu fais demain, bah tiens, si on faisait un film. Mais en fait,
non, mais on les aimait bien et puis ils nous aimaient bien
non,
aussi.
Non, mais il y a un vrai, non, je le redis, il y a un vrai travail d'écriture, travail d'acteur, de réalisateur, de lumière, de montage, parce que j'imagine aussi le recul nécessaire pour se dire on enlève telle ou telle scène, ça c'est pour l'efficacité de la narration, des effets comiques, parce que c'est une question de rythme aussi. Ça, et tout fonctionne, et tout est extrêmement drôle.
On apprend des choses aussi, comment faire passer un entretien d'embauche à une hôtesse au début du film. Comment faire passer un entretien d'embauche.
Ça, c'est Yolande.
C'est Yolande.
J'ai appris beaucoup de choses.
Ouais, FMI. Et chacun trouvera l'acronyme qu'il veut pour FMI, en tout cas. Voilà. C'est drôle, c'est intelligent, c'est très actuel. C'est pas spécialement... Alors oui, évidemment, il y a des élections qui arrivent le week-end prochain et il faut aller voter, mais au-delà de ça, il y a un côté intemporel parce que c'est pas spécialement autour des présidentielles, c'est simplement autour de l'appétit du pouvoir.
Ouais, et
c'est
la politique locale. Exactement. Aussi, la difficulté de l'exercer. Mmh.
Et sur l'écologie, sur le nucléaire, l'électrique, ils sont à chaque fois, nos comédiens ont toujours qu'une barrette, que ce soit sur leur trottinette électrique, sur leur téléphone.
Deux barrettes. C'est pas mal.
Et le pire, c'est qu'il y a la voiture électrique qui est conduite par Vincent Macken et derrière, il a un autocollant non au nucléaire. Donc
comment avancer
avec l'autre qui est celui de droite, lui, il a carrément la chauffeur. Clé de la centrale. C'est une toute petite clé.
Oui, c'est vrai, oui.
Une clé ridicule pour aller dormir de temps en temps.
En même temps, c'est aujourd'hui au cinéma. Allez-y. La musique est présente d'ailleurs parce que Nina Hagen ouvre. Le premier titre que l'on entend,
quel
c'est
Nina Hagen.
C'est surréaliste.
Très heureux.
On va recevoir dans quelques instants Jérémy Humbert qui a coécrit le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Kervern aux éditions La Tango. D'abord, Benoît, vous écoutiez-vous dans les années 60 ?
70 encore.
70 ?
Ouais, 70.
Okay. 60. Non, il va y avoir ça comme ambiance à la maison.
Non, mais même j'écoutais ces disques-là en boucle. Hein,
Alice
pendant,
Cooper.
Pendant les. Mais non, mais c'est dingue. C'est-à-dire une seule cassette, ça me faisait un an, quoi.
Il y avait des cassettes.
Ouais. Bah, à l'époque, c'était l'époque cassette. Quoi.
Ça sera la musique pour illustrer l'année de votre naissance, Benoît.
Mais voilà. À part ça, la chanson, elle est extraordinaire parce qu'à la fin, Alice Cooper, il est. Vous avez des problèmes à l'ouest, vous avez des problèmes à l'est, vous avez des problèmes au sud, au nord. Et moi, j'en ai rien à foutre.
Oui,
je veux être élu.
Et c'est, voilà, et on retrouve, c'est elect, ça s'appelle elected, être élu, et on retrouve encore une fois le clin d'œil en même temps sur les élections.
Benoît, on va évoquer l'enfance. Vous êtes né à Saint-Quentin dans l'Aisne. Votre père était agriculteur.
Voilà.
Et avec cette idée qu'il n'allait pas vous contraindre à reprendre l'exploitation familiale.
Ah bah non, parce que bah déjà, il n'y avait pas assez de terre, donc de toute façon, il savait très bien qu'on n'y arrivait pas. Et il m'avait sorti un truc qui était très juste, d'ailleurs. Il m'avait dit, écoute, tu vois, j'ai l'impression d'être indépendant, mais en fait, je suis salarié de chez Bonduelle, sauf qu'en plus, je suis pas considéré comme salarié, que j'aurais pas de retraite, j'aurais pas ceci, j'aurais pas cela. Donc, essaye de trouver autre chose. Il aurait bien aimé que je travaille à EDF.
Il y avait déjà, à l'époque, la pression entre les coopératives, les commandes faites et les exigences pour les agriculteurs.
Bah, bien sûr. Et puis, enfin, peut-être que les grands réseaux de distribution étaient moins présents maintenant, hein, mais ça, on fera peut-être un film par la suite à ce sujet. Mais
il faut vraiment rappeler que les agriculteurs sont coincé entre le
exigences. Ça, non seulement t'es pas salarié, mais c'est à toi de payer la machine de l'usine, quoi. Donc
ou à rembourser l'argent. Ouais, exactement.
Mais à quoi a ressemblé votre adolescence, les années collège, les années lycée?
Ben en fait c'était assez génial parce que on était en pleine cambrousse et avec les amis du village, on n'arrêtait pas de. Je dirais même que c'était mon école de scénario, parce qu'on n'arrêtait pas d'inventer des histoires, de s'inventer, d'un coup de partir sur telle ou telle idée d'aventure, ou de musée, ou de journal, ou tout ce qu'on veut.
Oui, il y avait le journal Polite.
Ah oui, c'est ça, j'ai créé mon journal avec un pote qui s'appelait Didier Bédu, qui a failli être le nom de Becker à un moment, mais...
Becker, c'est Jonathan Cohen dans le film.
C'est le personnage, ouais. Qu'est-ce qui vous faisait rire à l'époque, vous?
Ben non, ça a été une grande découverte, c'est quand j'ai découvert à l'époque Pilote, justement, c'est pour ça que j'avais fait Polite. Une parodie au lycée.
Déjà.
Mais c'est vrai que, quand tu vois ce qu'a fait Goscinny à l'époque, c'est extraordinaire, quoi, parce qu'il y avait, dans ce journal, il y avait plein de types d'humour différents qui étaient entremêlés, c'était génial, quoi, c'était un peu le de greffe de l'époque Goscinny.
Gus, vous écoutiez à l'époque.
Ah, c'est un Sega, hein. C'est Chinéa Gil Maurice, donc.
Il s'appelle Alain Ramanis.
Oui, mais ça, c'est un Sega assez récent, hein, mais j'ai mis ça pour évoquer le Sega en général.
D'accord.
D'ailleurs, j'attends toujours un Taratata spécial Sega qui.
Mais moi aussi. Moi aussi, je l'attends. Je l'attends parce que c'est pas moi qui le ferai, donc j'attends que quelqu'un le fasse.
Et vous êtes né à l'île Maurice, Gustave. Vous en partez à l'âge de 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Vous avez fait des recherches généalogiques sur votre famille. Ouais, qu'est-ce que vous avez pu découvrir?
Mon ancêtre est parti de Brest en 1774 sur un bateau qui s'appelait La Fortune, le mal nommé. Parce que, non, on était des petits blancs, mais pas esclavagistes. Donc j'ai ça au moins
à votre crédit.
Mon crédit. On était les grands-pères. Tout ça, c'était plutôt dans le droit, magistrat, maire d'ailleurs, maire de Port-Louis. Arrière-grand-père. Son père était maire aussi de son village.
Et puis, même mauvais psy pourrait trouver une raison à ce film.
Bah ouais, on sait jamais, mais oui, c'est possible.
Et plus tard, vous avez fait une école de commerce et vous achetiez un journal Création.
Donc
Benoît s'occupait. Alors vous le racontez là.
Oui, c'est vrai. Bah,
mais Benoît qui a fait aussi une prépa HEC, je crois.
Ben oui, puis après j'ai fait le CELSAF, c'était le journalisme. Mais après, donc effectivement, je me suis retrouvé rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Création, que lisait Gustave.
Ouais, je lisais ça parce que moi j'étais bras droit dans une entreprise à l'époque, dans une PME de papeterie. J'ai dû m'enfuir parce que tous les comptes étaient... je comprenais rien à la comptabilité. Donc à un moment donné,
au premier redressement fiscal.
Ah, j'ai l'image.
Non, c'est-à-dire le PDG a dit un jour il faut qu'on fasse un audit et là dès qu'il a prononcé le mot audit, je suis parti.
Audit. Bim.
Audit. Et donc je suis parti c'est là que je suis monté à Paris, donc ça m'a aidé quand même à sortir de Nice. Hein.
Vous avez marché combien de temps depuis?
Quand
tu t'enfuis. Hein. Benoît Delépine, dans les années 80, vous écoutiez.
Là, bon, là, c'est pareil, encore une fois, 10 ans d'erreur, mais c'est pas grave. Mais parce que c'est plutôt dans les années 90-2000, Groland, quoi. Enfin,
oui, 87.
Non, mais vous savez quand même, c'est complètement fou. Cette année, c'est notre 30e saison de Groland. L'anniversaire de Groland, c'est genre en novembre de cette année.
Génial.
Donc effectivement, dès les débuts, avec notre président Christophe Salengro, ça a été une très grande aventure. Mais
on a enterré Thalassa, il ne reste plus que les chiffres des lettres et le jour du Seigneur.
Et Michel Drucker.
30 ans aussi.
Mais non, c'est vrai.
On a le même âge. Et si on faisait un truc, un mash-up,
on va se coller.
Le mettez pas en prime, ça passera jamais.
Ça dépend dans quel pays.
Morgan a le titre.
C'est le fight.
Morgan a le titre du mash-up.
C'est quoi le titre?
Gros tatata.
Oh. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas.
Moi j'aime bien.
Des gens j'aime bien.
Un gros tas, du coup.
Un gros tas. 87. Bon, on a plus le temps. Gus, vous écoutiez.
C'est n'importe quoi.
Zouk.
Non, mais il a décidé de mettre du zouk partout.
J'ai voulu mettre un peu de joie, un peu de bonne humeur dans cette émission.
Non, mais il faut dire que c'était le générique de l'émission de Patrick Sabatier.
Non, ouais, je sais pas si c'était le générique, mais. Non, parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était Patrick son Sabatier morceau préféré, donc j'ai voulu évoquer Patrick Sabatier avec pour qui j'ai travaillé un an avant de me faire virer comme un malpropre.
Non, mais
j'ai déjà raconté.
Ah oui, parce qu'en fait, vous voulez travailler pour lui parce que vous apprenez qu'une Mauricienne travaille pour lui. C'est un peu la mafia.
C'est la filière mauricienne.
Trois personnes à Paris.
Et vous deviez. C'était à l'époque David Recherche. Et vous deviez faire des recherches pour trouver des anciens camarades de classe. Merci de me soutenir. Et il vous a viré ainsi qu'un copain à vous. Ouais. Pour quel motif?
Délit de sale gueule. C'est tout simple. Non, je sais pas, il y a un moment donné, c'était un mec assez bizarre qui disait jamais bonjour, qui rentrait dans les bureaux. Et donc, au bout d'un moment, il se lassait de voir la tête des gens. Et puis, il est viré un petit peu comme ça sur un coup de tête et un coup de pied surtout.
Pauvre Patrick.
Disparu trop tard.
Jérémy Imbert, merci de nous rejoindre. Jérémy, vous êtes auteur, réalisateur de documentaires, fondateur et directeur artistique du Festival Ciné-Comédie à Lille. Vous avez coécrit avec Christophe Godin le cinéma de Benoît de Lépine et Gustave Carverne aux éditions Latingo. Vous avez même carrément le badge. En même temps, on est jaloux. Comment définir le cinéma? Comment vous, en tout cas, vous le définissez, le cinéma de Gustave et Benoît?
Le cinéma de Gustave et Benoît, je dirais que c'est d'abord des comédies, faut le dire, et puis c'est des comédies atypiques qui sont ancrées dans le réel, avec pas mal de personnages du quotidien.
Ça veut dire donc pas la vanne pour la vanne, il faut qu'il y ait un fond.
Il y a toujours un fond, et puis c'est vrai qu'il se démarque de la production de comédies traditionnelles, je dirais, avec justement ce penchant pour des êtres un petit peu en marge de la société, ou des gens qui on traite jamais dans les comédies. Je pense à Gérard Depardieu, par exemple, dans Mammouth, qui fait tout un road trip pour aller chercher ses fiches de paye. C'est rare de voir ça dans le cinéma actuel. Je dirais aussi qu'il y a un gros travail d'écriture, avec notamment beaucoup de phrases cultes. Moi j'adore.
Lesquelles on sent que ça vous dérange. Lesquelles pour vous?
Il y en a beaucoup, mais j'en citerai une quand même, moi, qui est ma préférée. C'est Jean Dujardin dans I Feel Good. Il dit, si à 50 ans t'as pas des mules et un peignoir, t'as pas réussi ta vie.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
C'est rare de voir un duo comme ça. Je pense à Toledano et Nakash aussi, que nous recevrons pour En Thérapie demain, si ma vue est bonne. Mais c'est rare de voir comme ça des duos qui fonctionnent, qui réalisent ensemble.
Alors, les frères Dardenne.
Comment? Oui, les frères Dardenne. Alors, c'est pas des comédies, mais c'est vrai que oui, c'est
vraiment.
Franchement,
vous êtes
durs. Seconde lecture qui est.
Non, c'est les frères Cohen. Cela dit, alors aux États-Unis, il y a les frères Cohen ou les frères Farrelly, et puis, si on remonte vraiment dans le temps, la première comédie de l'histoire du cinéma, c'est quand même les frères Lumière. C'est l'arroseur arrosé. Donc, il y a une tradition de duo, mais c'est vrai qu'en France, actuellement, à part le duo de Lépine-Carverne et le duo de Toledano-Nakash, c'est vrai qu'on n'en voit pas d'autres.
Dans le cinéma grolandais, d'ailleurs, elles ont inventé le cinéma avant les frères Lumière, c'est les sœurs Torche qui ont inventé le cinéma. C'est vrai, bien avant.
On citait les acteurs, vous avez cité Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Jean Dujardin également, là maintenant Jonathan Cohen, Vincent Macken, quand on voit la manière dont ils font leur casting, c'est-à-dire à l'arrêt du bus, quand il n'y a plus de bus et quand il n'y a plus de taxi, on a l'impression que tout le monde a envie d'être dans la famille. C'est trop chic de tourner devant leur caméra.
j'emploierai pas le mot chic, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, un désir de tous les comédiens, je pense, de français, même belges et étrangers, de tourner avec Gustave et Benoît par justement parce que cette liberté de ton, il la retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai que Corinne Maziro nous avait dit notamment que dans les films de Gustave et Benoît, on est obligé de mettre son ego de côté. On est dans un monde où tout le monde est à égalité. C'est-à-dire que même les techniciens peuvent donner leur avis. Tout le monde peut donner son avis.
Oui, mais ça joue bien. Et si ça joue bien, c'est que c'est bien dirigé. Moi, j'insiste toujours sur le fait. On a l'impression qu'un bon comédien sera toujours un bon comédien. Non, il y a des bons comédiens qui se retrouvent dans des films où ils jouent mal parce qu'ils sont mal dirigés. Là, c'est pas le cas.
Parce que les films sont pas bons, tout simplement. Alors que là, les films sont bons et c'est vrai que les acteurs sont très très bien dirigés par Gustave Benoît. On a pu s'en rendre compte sur.
Ouais, on n'a pas une très grande direction d'acteurs. Nous, parce que par exemple, pour Jonathan Cohen. Nous, on voulait qu'il enlève ce petit sourire narquois qu'il a souvent quand il fait les. Et notre seule indication, c'est qu'on lui a dit il faut vraiment que tu aies une faille. Alors, elle pense que tu as été abusé sexuellement par ton oncle à l'âge de 9 ans. Donc, à chaque fois qu'il y avait son petit sourire qui arrivait, on faisait ton oncle.
C'est une autre manière de diriger.
Notre seule indication de tournage.
C'est différent.
Mais ça vous arrive de tourner une scène et au-delà des indications que vous avez données avant, de la couper ou de demander à la refaire parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Vous savez un peu ce que vous voulez.
Franchement, on est tous les deux, on se regarde, on sait discerner quand la justesse est là
oui,
ou pas. Donc tant qu'elle n'est pas là, on continue. Mais souvent, vraiment, nos acteurs, ils sont tellement bien et tellement bien choisis. Ils sont tellement bien dans leur rôle, souvent dès le départ, qu'on n'a pas énormément de choses à faire. C'est simplement quand il y a un débordement, tout d'un coup.
Mais voilà. Vous prenez quand même des têtes d'affiche. Vous prenez quand même des gens hyper reconnus.
Ils bossent quand même parce que là, par exemple, il y avait des telles tartines de textes, c'est inouï. Quoi. Il faut tenir. Donc ils nous ont avoué, Jonathan par exemple nous a avoué seulement ces jours-ci qu'il avait jamais autant bossé un texte depuis le conservatoire, c'est-à-dire quand il est arrivé là, il avait tout son texte déjà en tête et bien sûr Vincent ne voulait pas être en reste, donc du coup c'est cette chance-là inouïe, c'est d'avoir tout d'un coup deux personnes qui ont vraiment bien travaillé, après on peut aller sur les subtilités. Quoi.
Est-ce que en même temps pour vous sort du lot au milieu des 10 films?
Oui, ils sortent du lot. Ils ont un petit peu changé leur thématique, parce que là on a affaire à des politiciens, donc déjà c'est plus des gens en marge,
un peu quand même,
un petit peu quand même. Mais en tout cas c'est plus des gens qui vont chercher leurs indemnités sur une moto. Donc ça a un peu changé et puis le ton a changé. C'est très très drôle. Là on a revu le film hier. La salle était pliée en deux pendant quasiment tout le film.
Non, je suis d'accord.
Ça marche vraiment.
Voilà. Non, je suis d'accord. Et pour l'avoir vu dans une salle, alors très sincèrement, pour l'avoir vu dans une salle avec des, il y avait deux personnes qui m'ont dit ah je suis pas très client moi, Groland, Carverne de l'Épine, je suis pas très client. Ils étaient mais pliés de rire. C'est-à-dire qu'il y a pas.
Et sont repartis en disant la même chose.
C'est ça qui est intéressant et je voulais aussi rajouter, et c'est ça qui est encourageant, la critique négative de Télérama qui promet donc un succès à ce film, et ça fait plaisir. Ça n'engage que moi qui ne lis pas Télérama, donc comme ça moi je suis peinard. Merci Jérémy Imbert d'être venu à ce
merci micro. Jérémy. Très pour Télérama journée. On n'aurait peut-être pas dû faire cette petite réplique sur les professeurs qui votent maintenant tout ça.
C'est ça qui nous a un peu plombé.
Si c'est j'ai l'impression.
Voici le héros du jour, en attendant de reparler de En même temps, c'est Daniel Morin.
Et aujourd'hui, les amis, mes héros du jour auraient dû être le Brie et le Coulommiers, possiblement contaminés par la Listeria.
Mais oui, j'ai vu.
Le problème, c'est qu'après les pizzas Buitoni, les œufs Kinder, ça commence à faire beaucoup au rayon angoisse alimentaire. Et à 7h, 11h57, heure où la France va passer à table, je n'ai pas envie de débecter l'auditeur qui, face à son assiette, se dira la fourchette en berne. Monde de merde. Du coup, non, le Brie et le Coulommiers contaminés ne sont pas mes héros du jour. Mon héros du jour, c'est le conducteur automobile français dans son ensemble. Selon la dernière étude du comportement des Français sur la route, 80% des conducteurs utilisent leur téléphone au volant. C'est mal. C'est très mal. C'est hyper mal. Sauf que quand on conduit, on s'emmerde. Et quand on s'emmerde, on risque l'accident. Et ça, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils en tiennent compte? Bien sûr que non, bien sûr que non. Du coup, je considère que l'utilisation du téléphone au volant est un acte de résistance et de bravoure. Oui à l'utilisation du téléphone en bagnole. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il trompe l'ennui, parce qu'il permet de garder le lien avec vos proches quand le véhicule vous éloigne d'eux. Mais y a-t-il des limites à l'utilisation du téléphone en voiture ? Non ! Bien sûr que non ! Avoir une conversation téléphonique quand on conduit peut même être salutaire. Quand on conduit, on pense tellement à des choses déprimantes. La Covid, la guerre en Ukraine, les sondages qui nous annoncent de plus en plus la possibilité d'avoir une présidente, la météo au Touquet, l'injustice permanente dont sont victimes les Balkany, les problèmes de drogue de Leïla, la présence de Morgane à Genève le 8 avril. Bref, on déprime. Alors, une petite conversation, ça peut remonter le moral et empêcher le conducteur de se vautrer dans un platane pour oublier l'horreur omniprésente et quotidienne. Restons connecté, ça va. Oui, mais vous me direz, est-ce qu'écrire au volant, c'est risqué ? Non ! Bien sûr que non ! Écrire un mail quand on roule à 160, c'est pas dangereux. Si on relève la tête pour regarder la route, au moins toutes les deux minutes. Restons connectés, ça va ! Oui, mais vous me direz, et regarder un film pendant qu'on roule, c'est dangereux ? Non ! Bien sûr que non ! Tout dépend du film. Si vous regardez un film des frères Dardenne ou une rediff des chiffres et des lettres, oui, c'est dangereux parce que la somnolence provoquée peut amener la mort. Mais bon, si c'est un petit film d'action ou un petit porno, ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'on est attentif. Restons connectés. Ça va ! Alors, dans un souci moral de soldat du service public que je suis, précisons toutefois que c'est vrai, le téléphone au volant, ça peut être dangereux. Dangereux parce que la perspective de l'accident peut faire paniquer le conducteur et le rendre fébrile. Alors, pour éviter la panique, quand on conduit en utilisant son téléphone, sachez qu'il existe une solution. Roulez bourré.
Bon, merci Daniel Morin.
Ça va !
Ça va ! Guy Pastureau, bonjour, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Bah Daniel en parlait, je vais parler des Balkany, ils reviennent devant la justice, on était inquiets, ça faisait un mois et demi que c'était pas arrivé.
Il y a aussi une séquence moi qui m'a fait pleurer de rire dans En même temps, on en parlera après les infos, c'est le karaoké, parce que pour en professionnel, ne n'oubliez pas les paroles, le ébé, 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 c'est un grand,
oui.
C'est un grand moment, mais j'ai pleuré de rire. En même temps, Gustave Carverne et Benoît Delépine sont nos invités jusqu'à midi et demi. Morgane Guédignan, Jérémy Crédville, Guy Pastureau, Daniel Morin et nos invités, Gustave Carver, Benoît
Delépine. Bravo. Encore.
Moi je le fais dans ce sens-là parce qu'on dit toujours Delépine et Carver, je sais pas pourquoi, c'est l'alphabétique, c'est... C'est ça, non, j'essaie de comprendre.
C'est le bonhomme.
Non, c'est ouais, alors que c'est quand même pas dans l'ordre.
Alors que c'est moi qui fais tout en plus.
Mais il y a un moment, il faut le dire, Bon, parlons donc de ce moment du film qui m'a fait pleurer de rire. Et bébé, bébé, et bébé, et bébé, mais c'est tellement drôle. Alors vous avez le karaoké avec le texte où il y a écrit ébé, tout le long. Mais j'ai
pour être honnête, en fait, c'est pas nous ça, c'est vraiment Fabrice. Fabrice Poulain, qui est devenu
en fait
accessoiriste de notre film et qui a inventé ce concept du ébé.
C'est génial.
Et c'est en le rencontrant, enfin en les voyant chanter le ébé lors d'une soirée off à Angoulême, lors du festival de BD.
Ah donc il y a des soirées ébé.
Ouais, il y a des soirées ébé, ouais.
Ah non.
Et pourquoi on s'est dit, mais attends, mais il nous faut ça absolument.
C'est génial.
C'est le cas aussi pour le gendarme qui fait son spectacle de prévention, c'est pareil, c'est un spectacle que j'ai vu dans un petit village, s'appelle Selfroin, avec ces deux gendarmes qui se mettaient à danser devant les gens.
Le groupe gendarmerie avec un Y.
Ouais, voilà.
Ils sont deux.
Non,
ils font des messages
les gens
de prévention.
Stupéfaits, quoi.
Ils chantent devant les gens.
Voilà, des conseils de prévention.
C'est génial.
Et ça, c'est un plan séquence d'ailleurs, non, dans le film.
Ouais, c'est un plan séquence, tout à fait. Ouais.
Tu vois,
souvent, ça nous inspire de trouver des gens comme ça qu'on incorpore dans le film d'une manière ou d'une autre, parce que c'est ça qui nous fait vibrer encore, c'est que quand tu vas faire les repérages pour un film, pour moi c'est le meilleur moment du film, c'est-à-dire que tu découvres des gens incroyables en région, c'est fou le nombre de gens qui ont des histoires de fous à raconter ou qui vivent des histoires de fous, et nous à chaque fois qu'on en rencontre, on essaie de les mettre dans nos films.
On a vraiment choisi cette fois la région Occitanie parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on fait le festival du film Grolandais à Toulouse et ça nous a permis de rencontrer tellement de gens intéressants, ça nous fait plaisir de les mettre dans le film. Quoi.
Alors justement, est-ce que vous êtes en permanence en train d'observer, de noter, de compiler, j'allais dire presque dans des cahiers, des voilà comme vous dites, des karaokés que vous voyez, des gendarmes, des scènes ou ouais, des personnages en disant qu'il y a un moment où tout pourra être lié.
Franchement, ça fait maintenant notre 10e film donc, mais ça fait 20 ans qu'on rencontre des gens qu'on aime et qu'on essaye d'incorporer dans nos films parce qu'ils font partie de cette réalité quotidienne
faut
et qui nous donne envie de continuer.
Non, c'est ça, c'est que vous avez envie de faire les dingues aussi.
Ouais, dire, ça, c'est vrai que...
Mais ça, c'est... Et tant mieux, et
on
bravo.
On est arrivé, par exemple, à Carmo, là où il y a la statue de Jean Jaurès, quoi. On est arrivé là-bas pour regarder la statue, pour pouvoir faire ce que vous avez vu dans le film.
Oui.
Mais tout de suite,
il y a
une horde de Hollandais qui sont sortis des bars, qui nous ont... on a passé l'après-midi avec eux, ils nous ont emmenés dans le lieu mythique où Jean Jaurès a fait son premier discours, où il a enflammé les créations du syndicat, etc., etc. Il y avait encore, je me souviens, c'était fou, encore des cartons avec des prospectus touristiques pour aller en RDA.
Mais non.
Ça, c'était magnifique.
C'est collector.
Et tout sur des mecs vraiment géniaux, des mecs de la CGT de là-bas.
Alors, quand on va à Groland, on a compris que c'était nos limites. Est-ce qu'au cinéma, vous donnez des limites? Est-ce que vous dites, vous interdisez de faire de l'humour sur un genre ou une catégorie précise?
C'est pas le même exercice. Dans les sketchs, on peut aller très loin dans l'humour noir. Et puis dans les films, je sais pas, c'est pas qu'on se limite, hein, on se limite à rien, mais c'est nos histoires où on veut peut-être mettre un peu plus de fond, un peu plus de
nous-mêmes aussi.
Nous-mêmes, hein. Un peu plus d'émotion. Enfin, pas faire la même chose que ce qu'on fait à Groland. Du coup, ça donne... on se fixe à aucune limite, mais par contre, on essaye de faire des choses différentes en film.
Et comme l'a dit tout à l'heure Jérémy Imbert, avoir toujours dans le fond des valeurs apportées. Là, il y a carrément des valeurs de défense de la planète, de la condition du féminisme. Donc ça, c'était l'un des points de départ. Les deux piliers du film, c'était défendre ces causes-là.
Bah oui, parce qu'on se disait, enfin, je sais pas, on voyait d'avance la campagne électorale. On sait que en France, tous les 5 ans, effectivement, alors qu'on n'en parle pas forcément pendant l'année, tout d'un coup il y a l'insécurité, l'immigration qui arrive et ça, tout ça pourquoi? Parce que non, mais c'est parce qu'il y a que les vieux qui votent. Le problème c'est que les jeunes ont arrêté de voter, donc il y a que les vieux qui votent. Donc on a des campagnes qui ne s'adressent qu'à ceux qui votent, donc aux personnes âgées. Donc on essaye de les faire frissonner, leur faire peur et qu'ils aillent glisser leur bulletin de peur dans l'urne. Donc nous on s'est dit il y a encore les deux sujets les plus importants du moment, c'est-à-dire l'écologie et le féminisme, ça va encore passer à l'as. Donc, vous voulez absolument sortir ce film avant.
C'est réussi, en tout cas. C'est extrêmement drôle. Ça s'appelle En même temps et c'est aujourd'hui au cinéma. Voici Monsieur Tanguy Passion.
Daniel Morin, ce matin, me disait, tiens, c'est étrange, on n'entend plus parler des Balkany, puisque les Balkany, ça a été le sujet numéro 1 de Daniel pendant des années.
C'est ma vie.
À tel point qu'il enfilait la moitié de ses droits d'auteur, c'est avec ça qu'ils s'étaient payé leur villa au Maroc. Et là, il n'en parle plus, il est passé aux chroniques sur le fromage, hier, il en a fait une sur les œufs Kinder, il parle plus que de bouffe, comme tous les vieux. Hein, c'est normal, à 20 ans, on parle de sexe, mais dans un but précis qui est la procréation, parce que vos darons qui n'ont rien à foutre de leur retraite, à part les mots féchés de télépoche, veulent des petits enfants. Bon, à 40 ans, on parle un peu de sexe, beaucoup de nourriture, et à 50 on parle plus que de nourriture. Jusqu'à 70 ans on parle de nourriture liquide, hein, parce qu'on peut plus mâcher. Moi je suis entouré de quinquagénaires, ils causent plus que de bouffe, c'est leur seul désir. Jeudi prochain on reçoit Julie Andrieux des Carnets de Julie en studio. Tous les boomers vont se masturber, c'est sûr, hein. Julie dira c'est moi qui vous fais ça, Daniel répondra bah non, enfin t'as parlé d'entrecôte, et là on entendra Nagui murmurer, elle a aussi parlé de panais, de quinoa. Bref, Daniel, quand il n'était que sève et fougue, faisait des papiers sur la politique. C'est pas cet être nihiliste capable d'écrire 3 pages à la con sur la vache qui rit. Et moi qui me fiche du fromage, je suis obligé d'aller chercher moi-même des infos sur les Balkany. Hier, j'ai donc tapé sur Google « Que font donc les Balkany, Zarma ?» et je suis tombé sur une histoire folle, plus incroyable encore que si on apprenait que Maxime Le Forestier apprenait à voter Marine Le Pen. Figurez-vous qu'hier, les Balkany étaient convoqués par la justice pour une affaire de photomontage sexuel. Alors, photomontage sexuel, moi qui suis candide, tel l'agneau à qui Jean Lassalle n'a pas fait boire de sa gnôle au goulot, je savais pas trop ce que c'était. Je suis
suis donc allé voir Laure Adler, hein, qui lieu que son expérience de la vie peut répondre à toutes les questions, c'est l'oracle. Et tout en fumant 40 clopes, elle m'a dit, petit cloporte, c'est simple, un photomontage sexuel, tu prends la tête de Nagui, tu la mets sur le corps de Rocco Siffredi. J'ai dit, et si je fais le contraire, que je mets la tête de Siffredi sur le corps de Nagui? Elle m'a répondu, scarabée pourri, ce serait pas crédible, Rocco a fait 30 ans de porno, or tu construis pas un mur avec une demi-feuille à 4.
Oh, dis donc,
bref, allez. J'ai dit merci à Laure Adler, qui a rechaussé ses lunettes noires et admiré depuis son bureau du 6e étage la Seine, cette poubelle aquatique qui charrie rats morts et vieilles affiches d'Anne Hidalgo déchirées par Anne Hidalgo elle-même, hein, une nuit où elle criait « J'y réfléchis, je veux pas y aller, je vais me faire battre par Poutou ». Et j'ai lu l'article que j'ai trouvé sur le site de BFM TV, la chaîne d'Alain Duhamel, de Benjamin Duhamel, je crois qu'il y a aussi Bruce Toussaint, mais c'est un pseudo, il s'appelle Duhamel. Je vous raconte l'histoire. Nous sommes le 19 février 2021, ce qui aurait été la date de la Saint-Valentin si ça avait été le 19 au lieu du 14. La maire de Levallois, qui a pris l'hôtel de ville après les Balkany, Agnès Potier-Dumas, reçoit sur WhatsApp un message d'Isabelle Balkany avec écrit « Votre premier adjoint en pleine action » et deux photos montrant David Xavier Weiss, l'adjoint, nu sur un lit, en plein acte sexuel. Même les dredons a l'air horrifié, il semble dire « Tu vas un peu loin, la vieux ». Donc Madame Potier-Dumas, horrifiée, appelle Weiss, lui dit « Bah mon cochon, si c'est ça que tu fais de tes RTT, je vais te mettre aux 130 heures de travail hebdomadaire, tu vas pleurer ta grand-mère tellement ta mère, ça va pas être assez ». Weiss ne saisit pas, parce que vous aurez compris qu'il s'agit d'un photomontage. C'est la tête de Weiss, mais le corps d'un acteur de X quelconque, aussi bien le Mexicain Pablo de la Mota que le Belge Jackie van der Verge. La justice est saisie, le tribunal propose au Balkany son programme Fidélité Justice Premium, parce qu'ils sont convoqués tous les 4 jours, donc il y a des avantages. À l'entrée de la salle d'audience, il y a un accès coupe-fil, et en cas de condamnation, on bénéficie de 3 minutes de plus au parloir. Bon, voilà. Alors, pour avoir fait circuler ce photomontage, les Balkany encourent quand même 2 ans de prison ferme, alors que Patrick Balkany est déjà à Fleury-Mérogis. Toute la journée, il regarde la TNT, il a déjà perdu 30 points de QI. Pour leur défense, les Balkany disent qu'il s'agissait d'une gaminerie, ils avaient envie de se marrer. Et en France, quand on veut rire, eh ben, pouet-pouet, tu guettes, hein, une fois sur deux, on part sur la gaudriole. Hein. Pardon, mais au rayon fête chez Jiffy, il n'y a pas de cadre avec dedans une citation intellectuelle de Woody Allen sur le nazisme. Non, en tête de gondole, on a le tablier avec des seins sur lequel il y a écrit « La pépette est au fourneau ». Mais surtout, les Balkany disent ne pas être à l'origine du photomontage. Il leur aurait été glissé dans une enveloppe dans la boîte à lettres de leur permanence. Moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai que des factures. Donc, voilà, donc la justice a enquêté. Ils ont demandé à Madame Balkany pourquoi elle avait envoyé ses photos à Madame Potier-Dumas, maire de Levallois. Elle a répondu « C'était par devoir pour la prévenir que les photos circulaient ». Et je crois que c'est souvent comme ça, en fait. Quand quelqu'un vous envoie une photo de son sexe, c'est peut-être juste pour vous prévenir qu'il a un sexe. C'est bon à savoir. Comme ça, on évacue le sujet d'emblée et on peut parler d'autre chose, comme de nourriture si on a 50 ans. Bref, les Balkany, après avoir été condamnés pour fraude fiscale, blanchiment, sont convoqués pour utilisation d'images à caractère sexuel. En fait, je pense qu'il s'agit d'une collection. Certains collectionnent les baskets ou les porte-clés. Eux, ça doit être les condamnations. Chacun son truc. On ne juge pas. Il y a bien assez de jugements dans leur vie comme ça.
Merci Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau qui sera en spectacle le 23 avril à Dunkerque au Cœur Sale.
Dans l'actualité culturelle, oui. En même temps est au cinéma. Gustave Carverne et Benoît Delépine sont nos invités. D'autres événements culturels, Leïla.
Pourquoi est-il impossible de trouver Matrix, notamment sur des plateformes chinoises ?
Ah, parce que il est censuré.
Pourquoi est-il censuré ? Oui.
Parce qu'ils n'aiment pas ça, et ils font ce qu'ils veulent chez eux.
Ouais, ça ne c'est pas exactement la raison.
Message anticommuniste.
Non, ça tient.
À cause des réalisateurs ?
Non, c'est pas les réalisateurs, mais
une actrice.
Un acteur en particulier,
absolument.
Keanu Reeves s'est engagé à apporter son soutien à un événement, une association qui est basée à New York et qui soutient en effet le Dalai Lama. Ça n'a pas plu à la Chine, donc on ne trouvera pas Matrix, on ne trouvera pas non plus la mention de son nom Speed. Comme voix originale dans Toy Story 4 et dans d'autres films qui le concernent. Tout ça pour revenir à l'engagement. Est-ce que déjà vos films ont voyagé dans des pays assez inattendus?
Ouais, souvent on nous dit qu'on a vendu notre film pour 2000 euros en Chine ou.
C'est vrai.
Des trucs. Alors qu'on soutient Dalai Lama, mais là bizarrement ils en ont rien.
Ouais, là ils en ont rien. Vous voyagez un peu avec les films.
Ça dépend des sommes en jeu. Oui, on voyageait beaucoup avant. On faisait pas mal de festivals, mais. On est
grillé
un peu partout.
On est grillé partout.
Mais non, on a fait tous les festivals possibles. Ouais. Mais bon, à chaque fois, c'est très spé. Enfin. Donc j'ai fait un doigt d'honneur à Brad Pitt au Festival de Cannes, donc ça, je, pour l'instant je suis un peu en jachère.
T'es très
jachère.
Tricard, ouais.
En jachère.
En fait, vous, ça veut dire que quoi, vraiment, dans tous les festivals, vous pouvez pas vous en empêcher, vous faites toujours
là,
une connerie.
Là, on fait des petits trucs.
Non, pas alors, qu'est-ce que vous faites, en connerie?
Pour comprendre, le doigt d'honneur à Brad Pitt.
Il y a eu des périodes hallucinantes. Hein. Mais par exemple, enfin, je sais pas, je me souviens d'un festival en Roumanie, mais on savait pas qu'on était filmé, quoi. Donc, alors que c'était sur la plus grande chaîne nationale roumaine, et je sais pas, on avait porté quelqu'un qui avait la lèpre sur scène.
Il y a encore des lépreux en Roumanie. L'a porté sur scène. Moi, j'ai volé la veste du présentateur.
On a menacé le public en disant que s'il nous donnait pas le prix du public, on foutait le feu au théâtre, quoi. Mais on a eu le prix du public, d'ailleurs.
ça marche toujours. Pour en revenir au doigt que vous avez adressé à Brad Pitt, est-ce que c'était juste, encore une fois, la vanne pour la vanne, ou vous aviez vraiment un truc à lui reprocher?
Mais non, mais on présente un film qui s'appelait Le Grand Soir, donc sur deux punks à chien. Non, mais j'avais fait une connerie, c'est-à-dire dans le photocall, je m'étais incrusté dans l'équipe du film de Brad Pitt et tout ça, donc il y avait moi au milieu de tous les acteurs américains.
Van pour la van.
Van pour la van.
Et je me suis fait virer quand même à le propre, donc en partant comme ça, j'ai fait un doigt d'honneur à Brad Pitt en tombant à moitié, sauf qu'il y avait 500 photographes.
C'est ça le problème.
Donc je me suis retrouvé partout avec le doigt d'honneur comme ça, et puis voilà.
C'est le plaisir d'offrir, joie de décevoir.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez droit de citer encore?
Si, mais c'est pas qu'il se méfie un peu, mais là, mais on a eu
à Toulouse, au festival de Toulouse,
on a quand même eu l'ours d'argent à Berlin. Alors, et à chaque fois qu'ils nous donnent un prix, ils savent pas trop prix pour quel domaine. Enfin bon, bref, là, on a eu le prix des 70 ans du festival. Donc tout de suite, on a fait des conférences de presse en disant que c'était pour les organisateurs le meilleur film qu'ils aient jamais vu en 70 ans. Alors, ils ont dit, mais attendez, c'est pas exactement ça que vous voulez dire. Enfin, bref, à chaque fois, il y a toujours un petit
Autre question, quel succès cinéma de la saison 2020-2021 va avoir une suite double d'ailleurs, et ce sera en 2023 normalement. C'est français.
Famille Bélier.
Ouais.
Ah oui, la famille Bélier.
Kaamelott, dit Jérémy.
Kaamelott, absolument. Jérémy, hein. C'est Kaamelott. Il y aura une suite double. Là, c'est Jérémy qui a trouvé. Une suite double pour Alexandre Astier. L'idée, c'est de tourner 4 heures de film, les séparer et de les sortir à 5-6 mois d'intervalle, maximum 4-5 mois, pour assurer aussi une présence à l'écran. Il va tourner normalement au printemps 2023. Plusieurs questions. Comment est-ce que vous vous projetez dans le tournage de la suite? Est-ce que c'est important de continuer à tourner? Est-ce que vous voulez garder le même rythme? Est-ce que les plateformes vous font un peu de l'œil? Et qu'est-ce qui se prépare?
Bah, déjà qu'on a eu du mal à tourner celui-là, là pour l'instant on est un peu...
On attend de voir ce que ça va donner.
Déjà. Non, on a zéro idée, ça nous fait un peu peur.
Si, on a une petite idée, peut-être.
Une petite idée quand même. Avec François Damien, c'est...
Qui nous a vraiment donné envie, effectivement.
De faire un sur-mesure, comme vous avez dit tout à l'heure.
Voilà. C'est un truc sur le cartel du jambon, c'est un espèce de narcos. Mais avec le jambon, donc. Voilà.
Mais allons-y sur le fond, puisque au-delà de la vanne, il y a toujours un message.
Là, il y en a. Hein.
C'est quoi? C'est la bouffe?
C'est extraordinaire. On va se faire piquer notre idée là.
Si tu le dis, t'as la preuve comme quoi c'est vraiment ça.
Hein, c'est sur le porc en fait. Enfin, on a vraiment un gros truc sur le porc qui.
Le porc.
C'est quelqu'un qui va faire fortune en vendant du porc dans les pays où on mange pas de porc, parce qu'il invente un porc qui a une tête de mouton. Voilà, c'est le sujet.
J'adore l'idée.
Et qu'est-ce qui vous fait rire?
Mouton qui est sacrifié.
On peut plus dire que c'est du porc, mais en tout cas, il aura le goût du porc.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, en ce moment? À part ce mouton transformé.
Moi, Daniel Morin, moi je suis fan absolu, donc ça fait beaucoup rire.
Dans les trucs plus récents.
En plus jeune, je sais pas, je regarde rien.
Moi, je regarde pas les jeunes.
Il y a un film qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle Playlist, hein, qui était par une dessinatrice de bande dessinée.
Nina Antico.
Ce film-là m'a beaucoup fait marrer. Il y a aussi des jeunes.
Fils de Plouc.
Je vous signale, des gens extraordinaires quand on parle de frères. Mais il y a des jeunes frères qui s'appellent les frères Grit. retenez bien ce nom, en Belgique, deux jeunes types de 25 ans, ils ont fait un film, et c'est une hallucination
Fils
collective.
De Plouc.
Ça s'appelle Fils de Plouc, que vous pouvez peut-être voir sur
FDP,
Orange, sur OCS. Mais c'est génial, quoi. Mais c'est des fous.
Et Grid, vous l'écrivez G-R-I-D-T? G-R-I-E-T,
je crois. G-R-I-E-T.
Fils de Plouc. Très bien. Dans les, en ce moment, vous êtes à l'affiche de Murder Party. C'est-à-dire que, à quel moment, Gustave, on vous appelle, pour faire votre métier d'acteur et pas pour être Groland ou être.
J'ai pas énormément de propositions, donc je refuse rien pour tout vous dire.
C'est un appel.
C'est un appel de loser un peu, mais.
Mais d'où vous vient cet optimisme naturel?
D'autant que vous jouez gratuitement en plus, hein,
Non, mais là j'aurais pu jouer gratuitement parce que j'aimais bien le film, l'idée du film qui est un espèce de Cluedo dans un château à huis clos. Mais j'ai surtout, c'était au moment du confinement assez dur et j'ai vécu donc pendant toute la durée du tournage avec Eddie Mitchell qui joue dans le film.
Alice Paul et Miu Miu également.
Et c'était vraiment génial. On était tout seul dans un hôtel à l'époque du confinement. Enfin, on était les seuls clients. Et franchement, j'ai passé des soirées avec Eddie Mitchell. Enfin, lui et Jacques Dutronc qu'on rêve de rencontrer et de faire tourner. Mais franchement, c'était génial.
On ira d'ailleurs peut-être en Corse parce qu'il y a des ports noirs corses magnifiques. Voilà. Donc on va faire un petit tour du monde.
Mais par exemple, vous rêvez de faire tourner Jacques Dutronc. Qu'est-ce qui pourrait lui faire changer d'avis? On sait que Thomas Dutronc, son propre fils, a eu énormément de mal. Et d'ailleurs, les concerts ont lieu la semaine prochaine à Paris. Puis il y a toute une tournée qui reprendra également à la rentrée. Mais il a eu du mal à le faire remonter sur scène.
Nous, on lui a écrit, par exemple, vous savez, à la fin du film, il y a sa chanson « J'aime les filles ». Alors, on voulait lui faire... Voilà.
Radio Moderne.
Mais on voulait lui faire réinterpréter « J'aime les filles », mais en « ébé », quoi.
Il avait fait Merde in France.
Ouais, voilà.
Il était d'accord. On a même conversé avec lui par email, etc. Mais il avait trop de boulot. Enfin, j'aurais déjà bien de la chance si je suis pas mort dans les quelques mois à venir, parce que ça va être un boulot de fou leur tournée.
En termes de répétition, de tournée et de scène, c'est extrêmement dense. Et ils font toute la com d'ailleurs avec le Thomas qui dit moi j'avais envie et l'autre il dit mais pourquoi c'est si long. Donc il y a beaucoup d'autodérision. Il y a Les 100 dents également, le film de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau.
C'est une proposition vraiment là aussi fabuleuse, parce que c'est un film sans parole, donc c'est vraiment culotté et puis sans musique aussi avec Yolande Moreau, Morel. Non, c'est très bizarre. Hein, ça c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas moi je trouve l'image magnifique, les cadres, puis l'histoire d'un groupe de sans-dents, donc un peu de gars qui vivent dans une grotte, qui s'expriment que par borborygme. Donc c'est très très spécial, mais franchement ça, je sais pas, au moins en France on a des films culottés comme ça, que ce soit Murder Party d'ailleurs ou celui-là.
Ou même le vôtre, on a quand même, raison, on a la liberté de pouvoir faire les vannes que l'on veut, les films que l'on veut. Et Groland, alors les 30 ans, vous avez déjà une idée, une envie de fêter cet anniversaire d'une manière particulière?
Bah ouais, peut-être. Non, on a une idée qu'on va peut-être mettre en scène.
Soumettre à Canal?
Il y a un film extraordinaire qui date de 1924, qui s'appelle
Entracte. Disponible sur YouTube, vous pouvez le voir tranquille.
Voilà, écrit par Francis Picabia.
Voilà. Et René Clair.
Réalisé par René Clair, où c'est vraiment un dromadaire qui tire un corbillard. Et puis il y a tous les dadaïstes de l'époque qui suivent derrière. C'est trop beau, c'est magnifique. Et on a envie de reconstituer ça dans Paris. Faire une espèce de faire un appel général à tous les Grolandais pour...
Un happening
urbain.
D'accord, très bien. En même temps, c'est aujourd'hui au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel?
Bien sûr, déjà désolé pour François Damiens qui a découvert ce matin, on l'a découvert, a passé 12 heures en garde-vue pour 4 heures de tournage. C'est vrai que c'est chaud, mais François, c'est le tarif qui est un verre de l'épine. Et finalement, ça ressemble plutôt à une soirée chez Leila, papillon. Désolé pour Patrick Sabatier, dont la carrière, la mémoire, les dents, le présent, l'avenir ont été insultés par Gustave Carvel.
Ouais, je m'en excuse d'ailleurs.
En même temps, si c'est vrai, c'est bien de le dire. Hein. Non, je sais pas, Nagui.
C'est vrai.
Désolé pour Jonathan Cohen, qui m'a appelé à la pause pour me certifier que non, il ne voulait pas être collé à Morgane Cadignan. Mais t'as tort, Jonathan, parce que collé à Morgane, le 8, tu peux te retrouver à Genève. Ouais, c'est pas de la merde. Voilà. Hein. Attention, désolé enfin pour Jacques Dutronc. Lui aussi m'a appelé à ma cause pour me dire en larmes, je veux qu'ils arrêtent de m'appeler les deux furieux qui veulent saloper ma chanson en la chantant. Et bien voilà, le message est passé, Jacques.
Et allez voir En même temps au cinéma, c'est extrêmement drôle, bien réalisé, bien joué, intelligent. Bref, un film à voir absolument. Merci Benoît.
Merci, merci à vous.
Carlo Lépine au cinéma. Ouais, et demain, Éric Toledano justement et Olivier Nakache seront nos invités. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on fait?
On va dans les Landes. Comment?
C'était le vrai Nagui, pas comme ça.
Ouais, je sais. Non, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts en direct.
On va où?
Bravo. On va dans les Landes et aussi dans le Morbihan. Il va être question de réemploi, de recyclage et même de surcyclage.
Parfait. Bravo. Merci beaucoup.
C'est vachement technique.
Toujours utile, mais intelligent. Merci. Bonne émission.